Arnaud, nous attaquons ce sixième module dédié donc au plan de reprise d'activité et à la synchronisation, la réplication de serveurs physiques dans le data center à destination d'Azure sous la forme de machines virtuelles. On a vu toute la phase de configuration, de paramétrage et de déclenchement de la synchronisation initiale et de la protection des serveurs physiques dans les modules précédents. Et dans ce sixième module, eh bien, on va un petit peu détailler les différentes étapes du PRA, du plan de reprise d'activité, parce qu'effectivement, au-delà de la partie technique, après, il y a un ensemble de tâches séquentielles à suivre quand on va commencer à redémarrer une production dans l'environnement de secours, qui en l'occurrence ici est un data center de Azure.
Exactement. Donc on retourne ici dans notre Azure Site Recovery Vault, on est dans PRA HS physique, et puis on a une partie qui s'appelle Recovery Plans, et là on voit que j'en ai pas encore qui ont été configurés. Je peux le configurer à partir du moment où j'ai effectivement des machines virtuelles qui sont bien OK et opérationnelles, donc comme c'est le cas maintenant, eh bien on va se faire ça. Donc là je crée premier PRA, je l'appelle PRA 1, la source c'est PRA HS FI CS1, donc le Configuration Server, et puis je vais instancier ces machines dans Azure. Donc l'écran d'après me permet de sélectionner les machines virtuelles que je veux sélectionner et introduire dans mon plan de reprise d'activité. Donc là, mon environnement il est simple, je vais prendre les trois machines, je veux mon contrôleur domaine, mon SQL et mon SharePoint. À partir de là, il me les a ajoutées, donc c'est évidemment à moi de venir personnaliser cet environnement. Donc dans groupe 1, c'est un groupe de tâches initiales qu'il a créé, démarrer Hyperlan 1, 4 et 5, donc le DC, le serveur, SQL et le SharePoint.
Donc là, on est réellement en train de créer en fait un ensemble d'étapes. On parlait de checklist dans le module 1. Les différentes étapes, effectivement, quand on va redémarrer des environnements, parfois, effectivement, il y a un ordre à respecter. C'est-à-dire qu'en général, quand on a du Windows, on a quoi ? On va d'abord débarrer les contrôleurs de domaine. Et puis ensuite, on va démarrer, une fois qu'on a fait les contrôleurs de domaine et les autres serveurs d'infrastructure réseau, on va démarrer les serveurs applicatifs. Donc c'est là, effectivement, de base, ici, l'assistante propose l'ensemble des machines. Mais tu peux recréer tes propres groupes et ordonnancer, on fait tout ça. C'est ça, c'est finalement, on fait la checklist du PRA, ici, dans l'interface graphique, avec les différentes options.
Eh bien, absolument. On voit en bas de l'écran, ici, qu'on peut rajouter des groupes d'opérations, des groupes de tâches. Donc je vais pouvoir lancer des scripts, ne serait-ce que quand tu lances un contrôleur de domaine dans ton environnement isolé, tu vas devoir faire un metadata cleanup de les autres contrôleurs de domaine que tu n'auras pas mis dans ton PRA. Doute bien que si tu as 200 DC, tu ne vas pas répliquer les 200 DC dans ton environnement, mais bien repartir sur un seul ou deux ou trois DC, et puis tu fais un metadata cleanup pour que tout soit opérationnel de manière correcte. Et puis ensuite, il y a des actions manuelles. Ce sont des actions qui vont être un petit peu bloquantes lors de l'exécution d'un PRA. En tout cas, tu vas avoir un pop-up qui va apparaître dans l'exécution du plan de reprise d'activité et qui va te dire, appeler Roger ou vérifier tel point avec telle entité business pour vérifier que c'est bien opérationnel, qu'ils arrivent bien à se connecter.
Exactement.
Donc, c'est un peu toutes ces opérations qu'on va ajouter et séquencer ensemble. Une fois qu'on a créé ce plan de reprise d'activité, ici, on a effectivement PRA 1 qui apparaît, la source, l'environnement de destination. Ici, on voit un état si on a le PRA qui est en cours. Et puis, on voit la dernière fois que le plan a été testé avec succès. Et puis, la dernière fois qu'il a été exécuté avec succès en mode planifié. C'est-à-dire que j'avais un incident qui était entre guillemets prévu comme
une indisponibilité prévue, genre réorganiser le data center ou changer le système électrique du data center ou de la salle, etc.
Absolument.
C'est super intéressant le fait qu'il y a le successful failover, on ait en fait une trace de la dernière date, parce que ça permet également de se forcer déjà si on n'a jamais eu un chiffre ici, c'est que
c'est qu'on
a fait le travail. Et puis ça permet également de savoir tous les combien on doit répéter le plan et de vérifier effectivement que ça a bien été fait.
Alors là, je fais simplement très très rapidement un petit test. Ce petit test, il a aidé à se dire, tu vas prendre mes serveurs PRA FI CS1 et tu vas les exécuter dans Azure. Là, en matière de recovery point, je choisis de prendre le dernier recovery point in time où je peux choisir le dernier point qui est cohérent au niveau applicatif. Je valide et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement créer les différentes machines virtuelles propres à mon plan de reprise d'activité. Donc là, tu vois que Recovery Plan, Failover, il va me créer des machines Hyperlan 1, 4 et 5. Et que là, dans les opérations, il est effectivement en train de démarrer la 1, la 4 et la 5. Il n'y est pas encore, il est pour l'instant simplement à cette première étape. Une fois que c'est fait, quelques temps plus tard, tu vois qu'ici, ça n'a pas pris non plus des heures. Je vais commencer à 2h05 et la machine était opérationnelle à 2h11.
Ce qui est plutôt cool.
Donc les SLA ici qu'on a fait pour le redémarrage de la machine, pour le RTO, sont entre 4 et 6 heures, selon qu'on ait les machines virtuelles qui soient chiffrées ou pas à destination dans Azure.
D'accord. Ce qui est super intéressant également avec cet outil, ou cette partie de l'outil, en fait, du service, c'est qu'on peut également exporter les jobs, c'est-à-dire avoir une trace sous la forme d'un fichier, c'est Excel, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, ça permet effectivement de garder une trace après de « Ok, j'ai eu un désastre, on a déclenché le PRA », et après, effectivement, quand on fait le bilan du succès du PRA ou globalement de l'activité qu'il y a eu post-incident, on est capable effectivement de dire, bah voilà, ça, ce point-là, il est perfectionnable, parce qu'en fait, il y a des points d'arrêt dans le PRA, effectivement, quand c'est des actions manuelles. Et on est capable, en fait, d'avoir une trace, en fait, des événements quand ils ont eu lieu, et du coup, éventuellement, de les améliorer dans la fois suivante, quand on va retester le PRA, de vérifier, effectivement, que on est, en fait, de plus en plus meilleur, on est meilleur, en fait, avec le temps, plus on teste, en fait, le PRA, tout simplement.
Pas de miracle. Alors la petite chose que je vous ai pas montré, hein, mais quand on a nos machines virtuelles qui sont dans Azure, si on retourne sur Hyperlan 4, 1 et 5, je vous l'avais caché, mais en fait j'ai fait quelques étapes intermédiaires. C'est-à-dire que j'étais configuré ici les machines virtuelles telles qu'elles vont être instanciées dans Azure. Alors comment j'ai fait ça? Ben, en fait, je n'ai pas fait grand-chose parce que lui, automatiquement, il était détecté selon la configuration du serveur physique ici. Qu'est-ce que j'ai comme machine virtuelle qui y ressemble dans Azure? Donc là, j'ai une machine avec deux CPU, 3,25 Go de RAM sur ce serveur-là, c'est un petit serveur. Du coup, il peut m'instancier ça sur une machine à deux. Et ce qui est intéressant également, c'est que ici, on a sur le bas les informations concernant le réseau. Donc ici, il a détecté que sur ce serveur, il y avait une carte réseau Broadcom. Cette carte réseau Broadcom, elle est configurée de manière dynamique. C'est un serveur membre qui est en dynamique, donc pas de souci. Qu'est-ce que je vais faire donc dans Azure? Je vais le créer sur le VNet PRA HS physique, toujours le même réseau virtuel. Je peux choisir le subnet. Et puis là, il dit, bon, bah, comme elle est dynamique dans le data center, je vais la mettre en DHCP dans Azure. L'histoire est un petit peu différente pour Hyperlan 1, puisque là, on voit que c'est un serveur qui est un petit peu plus puissant. Il y a 4 CPU et 8 Go de RAM. Donc là, il fait, tiens, ce qui ressemble pas trop mal, c'est une A6, hein, 4 gigas, et puis au passage, on gagne une vingtaine de gigas en plus, donc mon contrôleur domaine devrait être plutôt à l'aise. Mais la partie qui est plus intéressante, c'est la partie réseau, où là, je vois que j'ai différentes cartes réseau, et je vais pouvoir dire que bah, cette fois-ci, c'est un serveur statique. Hein. Vous en doutez bien, c'est un contrôleur de domaine, il y a une adresse IP qui lui est spécifiée à la main. Donc ici, c'est à moi de spécifier l'adresse IP qui en résultera.
Dans le subnet d'arrivée.
Voilà. Donc là, ici, on va le fixer, on va lui mettre une adresse IP, et puis tu t'en doutes bien. Ensuite, j'irai modifier la config de mon subnet dans Azure pour lui spécifier l'adresse IP que j'ai spécifiée ici.
Pour les DNS et les contrôles de domaine,
tout à fait. Exactement. C'est ce que j'ai fait ici, hein. J'ai été retouché à mon réseau physique, mon réseau de reprise d'activité physique, et j'ai été lui spécifier 192.168.0.21, qui est l'adresse IP que j'ai forcée pour le contrôle de domaine.
C'est le fameux VNet PRA
HS physique.
Voilà, alors, physique parce que tu as appliqué ça en physique, mais c'est un réseau virtuel ici. Hein.
Absolument.
Juste préciser.
Donc, en résumé, on a maintenant une infrastructure sur site, on a dans Azure la possibilité d'avoir ces VM Hyperlan 1, Hyperlan 4 et Hyperlan 5. Du coup, je peux parer à toute éventualité dans mon data center, tout type d'attaque. Ici, l'attaque de la pieuvre géante, par exemple, eh bien, je suis protégé contre ce type d'attaque.
C'est un type de PRA plus rare, mais le jour ça arrive, on est bien content d'avoir un PRA.
On n'est jamais trop prudent dans la vie Stanislas.
Hein. Exactement.
Et donc, du coup, pour mon organisation, effectivement, je peux passer pour Super IT, puisque je suis capable de faire la prod et d'instancier ma prod de serveur physique, les instancier en tant que VM,
exactement,
dans Azure.
Fondamentalement, la prod, enfin, ou les utilisateurs ou les métiers vont se moquer de savoir où est-ce que tu instancies tout ça, mais là, l'avantage, effectivement, du coup, en utilisant le cloud public, en utilisant Azure, tu n'as pas effectivement à avoir à gérer des matériels dans un autre site secondaire, à payer de l'électricité, à gérer des configurations qui ne sont pas forcément exactement les mêmes, etc., etc. Donc là, effectivement, du coup, tu optimises tout ce qui est CAPEX, tu transformes ça en OPEX, et puis du coup, ben, c'est facile de répliquer, et tu as toute la performance d'Azure derrière, et tu es sûr que nos data centers, eux, ben, seront disponibles.
Parfait, voilà à quoi ça ressemble. Les machines virtuelles, du coup, elles sont listées en tant que VM Azure. Donc quand je veux voir mes machines virtuelles de mon service de cloud, ben, j'ai évidemment Hyperlan 1, 4 et 5 qui apparaissent à l'exécution de ce PRA, et puis du coup, ben, qu'est-ce que je fais? Ben, j'ai bien ma machine physique qui est instancié en tant que VM dans Azure. Alors c'est aussi spectaculaire qu'une console remote desktop que j'ouvre sur un serveur. Hein. Après, il m'appartiendra d'aller ouvrir le SharePoint, ouvrir la console Active Directory, et j'aurai bien tous mes objets qui seront présents. Voilà, on a bien mis ça en œuvre. Maintenant, les considérations de montée en charge, eh bien, c'est ce qu'on va discuter dans le module 7.